Soirée spéciale, élection présidentielle, second tour. Avec Ipsos Soprasteria, France 2, Le Monde et Le Point. Sur France Inter.
Il est 20h, Emmanuel Macron est élu président de la République, 65,1% pour lui, Emmanuel Macron, contre 34,9% pour Marine Le Pen, selon Ipsos. À 39 ans, au terme d'une campagne absolument inédite, Emmanuel Macron devient donc le 8e président de la 5e République. On va filer tout de suite du côté du carrousel du Louvre, où Cyril Graziani nous attend.
Oui, explosion de joie au Louvre. Vous vous en doutez quand le visage d'Emmanuel Macron s'est affiché, des centaines, des milliers peut-être de militants en marche avec ses drapeaux français prêts désormais à faire la fête. Emmanuel Macron devient, vous le disiez, le 8e président de la 5e République, le plus jeune de l'histoire. Il a réussi son pari fou. Macron a accédé au poste suprême sans avoir été élu, en ayant monté son parti il y a à peine plus d'un an. Nous attendons donc maintenant la première allocution du nouveau président élu qui devrait arriver dans les prochaines minutes. En attendant, ça va être la grosse ambiance ici sur le carrousel du Louvre. Les DJ sont déjà en place.
Il y a déjà beaucoup de monde, Cyril Graziani, ou pas tant que ça pour l'instant?
Si. On va dire un petit millier de personnes qui est agglutiné près de la Seine, à côté de la pyramide du Louvre. Et puis là, vous le voyez peut-être sur les images des drapeaux français qui flottent. Ils ont été attribués à la plupart des personnes qui arrivaient ici au Louvre.
Ce sont des milliers de drapeaux.
Une forêt de drapeaux pour bien montrer le côté patriote. Ça a été le leitmotiv d'Emmanuel Macron dans cet entre-deux-tours, vraiment montrer que c'était lui le candidat des patriotes face à Marine Le Pen, qu'il qualifiait de nationaliste.
Cyril Graziani au carrousel du Louvre, on revient vers vous dans quelques instants. Aurélien Colli est dans le QG de Marine Le Pen au Bois de Vincennes. Aurélien.
Déception, Nicolas, ici évidemment, mais attention, si on a voulu croire que la surprise était possible, on savait que les chances de victoire étaient minimes. La preuve, ce chalet du lac au fond du bois de Vincennes où se déroule cette soirée électorale, absolument pas adapté pour fêter une victoire, mais plutôt pour célébrer la fin d'une campagne, remercier les troupes, les remotiver pour la suite. Le millier de militants qui est là a d'ailleurs été trié sur le volet, des cadres, des équipes de campagne sur invitation. En interne, on nous l'avait dit, si Marine Le Pen est au-delà de 40%, c'est une vraie victoire. Entre 35 et 40, c'est limite, mais ça va encore en dessous. C'est mauvais, c'est un échec. Alors avec ces 34-35% pour l'instant, on est plutôt dans la fourchette basse. Mais attention, en nombre de voix, Marine Le Pen améliore clairement son score du premier tour. Elle dépasse largement les quelques 7 700 000 voix du premier tour. Elle serait entre 10 et 11 millions de voix. Ça veut dire que Marine Le Pen a quand même réussi son pari, réussi notamment à prendre des voix à droite avec sa stratégie de fin de campagne, son discours très à droite sur l'identité, l'immigration, le communautarisme. Et au moment où je vous parle, on attend Marine Le Pen qui doit prendre la parole, et ses partisans ont décidé de lancer une Marseillaise. Ils sont en train de la chanter en ce moment même.
Aurélien Colli au Bois de Vincennes, au QG de Marine Le Pen. Un mot sur les estimations, celles que nous vous donnions d'Ipsos. 65,1% pour Emmanuel Macron, 34,9% pour Marine Le Pen. Il y a d'autres estimations. Harris Interactive 66,1%, 33,9%. Estimation Kantar Sofret 65,35%. Donc les choses sont encore en train de bouger. L'IFOP 65,5, 34,5. Un point peut-être, Amandine Lama, sur ces chiffres, ces estimations.
Oui, ces estimations qui vous sont données par Ipsos Soprasteria pourront être affinées au cours de la soirée, mais on est déjà très clair sur le vainqueur de cette élection avec 65,1% pour Emmanuel Macron. On a un autre chiffre qui est disponible dès maintenant, c'est le nombre de bulletins blancs et nuls. On a 8,8% de blancs et nuls, ce qui constitue un record absolu pour ces votes blancs et nuls. On a déjà dit qu'on était sur un record pour l'abstention depuis plus de 40 ans. Sur les blancs et nuls, à nouveau, on a énormément d'électeurs qui ont choisi le nini, finalement.
Jean-Yves Camus nous a rejoint. Bonsoir, spécialiste du Front National. Et Sylvie Goulard, bonsoir madame.
Bonsoir.
Eurodéputée, soutien de longue date dans cette campagne d'Emmanuel Macron. Frédéric Mettezo vous pose une première question.
Madame Goulard, quel président sera Emmanuel Macron? Pour la première fois, on a du mal à caractériser notre nouveau président de la République. Avant, c'était facile, on avait un président de droite ou un président de gauche. Aujourd'hui, on a certes le plus jeune, certes le mieux élu après Jacques Chirac en 2002, donc un très large score, mais aussi élu dans les conditions qu'on vient de citer, avec une forte abstention, beaucoup de bulletins blancs. Donc, quel président sera Emmanuel Macron?
Je crois qu'Emmanuel Macron a montré ce soir qu'il avait une certaine capacité à renouveler la vie politique en France. Il a été élu, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont porté leur suffrage sur Emmanuel Macron et qui ont soutenu notre démarche. Il est évident que nous n'oublions pas ni l'adversaire qui était en face et qui a fait un score non négligeable, ni, comme cela vient d'être rappelé, le nombre élevé des abstentionnistes ou des bulletins blancs. Mais cette formidable capacité de renouvellement que le peuple français a soutenue, a reconnu et qui va être extrêmement apprécié dans le monde entier. Souvenez-vous quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on prédisait un effet de domino après le Brexit et après Trump. Donc la France a donné un message clair avec une belle majorité. Et maintenant, il y a beaucoup de travail devant nous.
Un mot pour vous dire qu'un échange téléphonique bref et cordial entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen vient d'avoir lieu, selon l'entourage d'Emmanuel Macron à l'AFP. Une première réaction politique, vice-président Les Républicains à l'AFP, Wauquiez, son prénom m'échappe,
Laurent Wauquiez.
Macron, je cite, un président élu sans envie ni enthousiasme, fin de citation. Arnaud Le Parmentier ?
Non, mais la question, c'est maintenant, il faut qu'Emmanuel Macron ait une majorité pour diriger, parce qu'on est dans un système semi-présidentiel, semi-parlementaire. Qui va-t-il nommer comme Premier ministre et comment va-t-il rassembler pour avoir une majorité, Sylvie Goulard ?
Alors, chaque chose en son temps. Ce soir, c'était le résultat. Ça fait à peu près une minute que nous savons qu'Emmanuel Macron est élu. La démarche a consisté depuis plusieurs mois à monter un mouvement. Nous aurons des candidats en marche, dans 577 circonscriptions, et il appartiendra aux Français de se déterminer et de voir s'ils ont envie de donner une majorité au président qui vient d'être élu ou pas. Et je suis très confiante, je pense que les Français sont cohérents, ils sont adultes, et s'ils ont choisi Emmanuel Macron, ils auront probablement envie qu'il puisse gouverner. D'un autre côté, sa démarche depuis le début est de rassembler, comme ça a été rappelé, sans sectarisme, sans positionnement ou à droite ou à gauche, et sincèrement, la situation grave dans laquelle se trouve l'économie du pays. La situation géopolitique sérieuse des pays qui nous entourent fait que nous n'avons pas à nous diviser.
Jusqu'à présent, il était très prudent. Quand Manuel Valls a dit qu'il le soutenait, il l'a pas beaucoup accueilli à droite. Est-ce qu'il va y avoir des gestes envers des gens du Parti des Républicains ? Par exemple, Bruno Le Maire a dit qu'il était prêt à sauter dans le vide. Est-ce que vous allez essayer de récupérer une partie des Républicains qui disent tous que, sur le fond, en fait, ils partagent à X%, plutôt proche de 90% que de 60%, des idées d'Emmanuel Macron ?
Sylvie Goulard.
Je crois que c'est aussi à eux qu'il faut poser la question. La démarche d'Emmanuel Macron est claire, c'est une démarche de rassemblement. Récupérer est un mot peut-être un peu négatif pour ce que nous avons l'ambition de faire, c'est de dire à un certain nombre de Français de bonne volonté qui souhaitent des réformes économiques, c'est ce que disait le programme de François Fillon, qui souhaitent que la France reste dans l'Europe, qui souhaitent que nous prospérons avec l'euro, que tous ces gens-là, eh bien, acceptent de travailler ensemble dans l'intérêt supérieur du pays.
Frédéric Mettezo.
Oui, Madame Goulard, vous avez parlé des 20 heures de renouvellement. C'est vrai que par son profil, par son âge, par son parcours, Emmanuel Macron fait sauter tous les codes. Il renouvelle déjà par le simple fait d'être élu. En même temps, il est soutenu, on l'a vu, par François Bayrou, par Gérard Collomb, par Dominique de Villepin. Il a été conseillé par Alain Minc et Jacques Attali, qui n'ont pas toujours été très clairvoyants depuis 45 ans, qui s'expriment. Comment donner confiance aux Français qui souhaitent se renouvellement et qu'est-ce qui nous garantit que ce ne sera pas justement des personnes déjà vues qui vont être à nouveau installées aux postes les plus importants de la République ?
Sylvie Goulard.
Alors si je voulais être taquine, d'abord je dirais que vous avez utilisé la parole fétiche d'Emmanuel Macron qui est en même,
même temps.
Donc voilà. Ça commence à rentrer
ça
dans les esprits.
Nous on est journalistes, on n'est pas décideurs.
Non, mais ça c'était juste pour rire. Je crois que sur le terrain, moi ce qui me frappe, c'est de voir que ce renouveau existe profondément dans tous les départements dans lesquels il y a des référents d'En Marche qui sont des personnalités souvent nouvelles, ne s'étant pas intéressées à la politique auparavant. Ces personnes-là ont contribué au programme et un certain nombre d'entre elles, ou d'autres d'ailleurs adhérents du mouvement, seront les candidats. Il y aura à peu près la moitié des candidats d'En Marche qui devraient être issus de la société civile avec d'autres profils.
Vous serez candidate, vous, personnellement, aux législatives ?
Personnellement, je ne suis pas candidate.
Il est 20h09, je voudrais, avant de continuer l'entretien avec Sylvie Goulard, retrouver Philippe Randé au QG de campagne d'Emmanuel Macron. Philippe, dites-nous, même explosion de joie qu'au carrousel.
Pas tout à fait, parce que Cyril Graziani le disait au Carrousel du Louvre, il y a un écran géant. Ici, nous sommes entre deux petites rues du 15e arrondissement de Paris. Il n'y avait aucun écran géant. Du coup, ça a été une explosion de joie à plusieurs détentes, hein, si j'ose dire. Il y a d'abord eu les voisins au deuxième étage, un couple avec trois enfants qui étaient devant leur télé, qui ont commencé à crier de joie. Et puis en bas, dans la rue, les gens avec leur téléphone portable qui ont vu les résultats s'afficher. Donc il n'y a pas eu une explosion de joie gigantesque, mais en tout cas, les gens qui sont ici, la cinquantaine de personnes, on va dire, qui est ici autour de nous, à 20 mètres hein, du QG d'Emmanuel Macron. Les militants attendent maintenant qu'Emmanuel Macron sorte, peut-être sur le toit, pour saluer la foule. Emmanuel Macron, qui est ici dans son QG depuis 2-3 heures, qui est en train, a priori, de passer des coups de fil, notamment à des dirigeants étrangers, et qui devrait quitter le 15e arrondissement dans une heure et demie. Mais vous l'entendez derrière moi, peut-être les gens qui crient en attendant qu'Emmanuel Macron sorte, donc faire peut-être un petit coucou à la foule.
Philippe Randet, au QG de campagne d'Emmanuel Macron dans le 15e arrondissement. Amandine Lama, Ipsos, dernier chiffre, dernières estimations.
Oui, nous avons une nouvelle estimation nationale, Ipsos Soprasteria, qui donne Emmanuel Macron devant avec 65,5% des voix contre 34,5% pour Marine Le Pen. Donc Emmanuel Macron creuse l'écart dans cette nouvelle estimation.
Arnaud Le Parmentier.
C'est sur ce chiffre que je voudrais rebondir. On parlait d'une France coupée en deux. 65%, c'est quand même 2 Français sur 3. Alors, on n'est pas aux 82% de Jacques Chirac qui était arrivé après un choc énorme. Là, c'est un vote réfléchi. La preuve, il y a beaucoup d'abstentions. Mais quand même, 65%, c'est les 2 Français sur 3 que voulait Giscard. Donc, ça veut dire qu'il y a une claire majorité pro-européenne, pro-réforme. On va dire que je m'enthousiasme. Naturellement, il y aura sans doute un troisième tour social. Ce sera difficile de remettre les morceaux. Mais c'est quand même un résultat qui est bon, qui montre le reflux des populistes. Ça a commencé en Autriche il y a quelques mois avec l'échec in extremis de l'extrême droite, puis avec les Pays-Bas. Et on voit quand même que Marine Le Pen s'est fracassée.
Elle va s'exprimer d'ailleurs d'un instant à l'autre. On va l'écouter en direct sur France Inter. Il est 20h12. Marine Le Pen, donc, qui est à l'écran et qui s'exprime maintenant.
La République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Je remercie également Nicolas Dupont-Aignan et son mouvement Debout la France, ainsi que les personnalités qui m'ont soutenu pour leur choix courageux et fondateur. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. C'est ce grand choix qui, par circonscription, sera soumis aux Français lors des législatives. Je serai à la tête de ce combat afin de rassembler plus largement encore tous ceux qui veulent choisir la France, défendre son indépendance, sa liberté, sa prospérité, sa sécurité, son identité et son modèle social, tant nous sommes inquiets des perspectives qu'offre ce nouveau quinquennat. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France.
Voilà, Marine Le Pen, donc, en direct sur France Inter. Jean-Yves Camus, je vous resalue. Merci d'être avec nous ici en studio. Grand spécialiste, évidemment, du Front National et des extrémismes. Votre lecture de ce second tour de l'élection présidentielle, dernière estimation, 34,5% pour Marine Le Pen.
Nonobstant le nombre élevé de suffrages, c'est un mauvais score. C'est un mauvais score qui est très en deçà de ce que nombre de sondages prévoyaient encore pour Marine Le Pen. Juste après le premier tour, la barre était fixée aux alentours de 40%. Vous l'avez dit tout à l'heure, en dessous des 35%, c'est incontestablement un Front National et une candidate qui ne fait pas le plein, qui a perdu largement du terrain lors d'un débat télévisé lors duquel on peut s'en partager ses idées et dire qu'elle n'était pas elle-même. Elle entame maintenant une sorte de recomposition qui va peut-être déboucher sur ce que l'on attendait depuis un certain temps, c'est-à-dire un changement de nom, une alliance, quelque chose. Mais en même temps, les fondamentaux n'ont pas changé. C'est ce qui, d'une certaine manière, me fait dire que tout à l'heure, votre reporter qui disait un positionnement très à droite sur l'immigration et l'identité, ne voit pas que très à droite, ça n'est pas le Front National. Très à droite, c'est ce que disait François Fillon. C'est ce que disaient un certain nombre des ténors des Républicains, qui peuvent effectivement avoir des positions très à droite sur ces questions-là. Mais quand on veut établir un moratoire sur l'immigration légale, et un moratoire qui est par définition une mesure temporaire, et quelque chose qui annonce en général des décisions définitives, quand on parle de ses adversaires politiques, comme on parle de ses ennemis, en excluant du corps national des gens qui peuvent être des patriotes qui ne partagent pas ces idées, et qui se trouvent ravalés au rang de mondialistes, à qui on dénie donc leur appartenance de plein pied à la communauté nationale, on est beaucoup plus sur très à droite.
Mmh. Frédéric Mettezeau.
Oui, Jean-Yves Camus, est-ce que vous imaginez dans cette recomposition, dans cette nouvelle force politique que Marine Le Pen veut construire, est-ce que vous imaginez une querelle de ligne, pour faire de façon assez simple, entre la ligne Philippot qui avait des mots, je parle bien de mots, plutôt souverainistes, venus de la gauche type Chevènement, et la ligne Marion Maréchal Le Pen, beaucoup plus FN qu'Anal historique. Est-ce que vous croyez à ces deux lignes ou est-ce que ça c'est juste une vision trop simpliste?
Jean-Yves Camus.
Le souverainisme de Jean-Pierre Chevènement, quoi qu'on en pense, n'était pas un souverainisme qui voulait établir un moratoire définitif sur l'immigration légale.
C'est pour ça que je parle bien des mots.
Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, il y a évidemment des querelles de lignes. Je crois qu'elles se sont exprimées depuis plusieurs mois et juste après le débat télévisé, il y a eu des réactions qui témoignaient d'un certain mécontentement. Mais pour que cette querelle de ligne débouche sur un bouleversement, il faudrait que le Front National soit un parti dont la gouvernance est la même que celle des autres. Pour que cette querelle de ligne débouche sur quelque chose, il faut que deux lignes s'incarnent dans des personnes. On pense immédiatement, tout de suite, à Marion Maréchal Le Pen versus Marine Le Pen. Mais Marion Maréchal aurait-elle d'abord l'envie d'incarner ce challenge? Ça n'est pas certain. Et en a-t-elle les moyens dans un parti où pratiquement tous les secrétaires départementaux ont été changés depuis quelques années, où l'appareil est verrouillé, où la parole existe en off, si je puis dire, mais ne se libère pas? Ça va être extrêmement compliqué.
Est-ce que vous ne croyez pas,
Arnaud?
Donc vous ne prenez pas au sérieux l'appel de Marine Le Pen qu'on vient d'entendre à en fait devenir le parti de l'opposition, à rassembler au-delà de Dupont-Aignan, à devenir finalement la future droite, même si vous dites qu'il reste d'extrême droite. Est-ce que c'est pas visiblement le défi qu'elle s'est posé à elle-même ce soir?
Jean-Yves Camus puis Sylvie Goulard.
Je prends évidemment cette possibilité au sérieux, mais je crois qu'elle ne pourra véritablement s'incarner que si l'alliance dont Marine Le Pen parle va au-delà de l'accord conclu avec Nicolas Dupont-Aignan. Ce serait très intéressant de voir d'ailleurs, on le verra sans doute plus tard dans la soirée, quels ont été les reports de voix des électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Ils sont quand même entre 6 et 7% dans certains départements de l'Est de la France notamment, vers Marine Le Pen. Peut-être que tout le monde n'a pas suivi non plus. Et puis le véritable Big Bang, il se fera au moment où les Républicains imploseront. Et ça ne me paraît pas véritablement être le scénario qui se profile. Non, mais on a déjà dit plusieurs fois, notamment après la défaite de Nicolas Sarkozy, que les Républicains allaient exploser en vol et que, à partir de cela, allaient se reconstruire ou se construire de droite, les Républicains maintenus, si j'ose dire, puis une force qui serait à sa droite et qui verrait le Front National venir à lui des élus, des Républicains, des gens gens qui ont un certain poids. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a deux personnes qui sont investies par le Front National pour l'instant, qui ont été un jour, dans une mandature précédente, députés des Républicains. C'est Michel Huneau et Jérôme Rivière. Mais ça va pas plus loin pour l'instant.
Sylvie Goulard, vous souhaitiez intervenir?
Oui, je souhaitais faire une petite remarque de fond. Madame Le Pen, à ce soir, le ton qu'elle a eu pendant les débats, ainsi que les personnes qui l'accompagnent, dans lequel elle jette des invectives. Elle dit aux gens, les autres ne sont pas patriotes, les autres sont des mondialistes. Vous venez de le souligner très justement. Ce qui me paraît important, c'est qu'on regarde qu'une recomposition suppose aussi d'avoir un programme qui tienne la route. Et que jusqu'à présent, sur des questions aussi fondamentales que la monnaie, que la manière dont on peut donner de l'emploi aux Français, leur programme ne tient absolument pas la route, puisqu'elle proposait quelque chose de très hasardeux en termes de monnaie, de jouer avec l'argent des Français, et la fermeture des Français, des frontières, ce n'est pas ce qui garantira l'emploi. Donc je crois qu'il faut qu'on ramène le plus possible, comme d'ailleurs Emmanuel Macron l'a fait depuis des mois, le débat sur le fond, non pas sur des slogans, non pas sur des anathèmes et des invectives, mais sur la réalité de la situation de notre pays, à un moment où le monde est interdépendant, où la France et membre de l'Union européenne, qu'on puisse vouloir jouer mieux ces cartes-là, et notamment la carte européenne, c'est ce que nous espérons pouvoir faire. Mais encore une fois, tout ceci est bien pauvre, à mon avis.
Une première réaction à vous faire entendre sur France Inter, celle de François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, évidemment dans cette présidentielle.
Je trouve ce résultat magnifique et incroyablement significatif. Dois-je ajouter qu'il est pour moi très émouvant parce que c'est le combat, un combat qui vient de loin, qui a pris des années et des années. Et si je pouvais faire un tout petit rappel, ce soir le score d'Emmanuel Macron me rappelle quelque chose, c'est les 2 Français sur 3 que Valéry Giscard d'Estaing voulait rassembler. Ce soir, ils le sont. Et ça dit quelque chose de formidable sur notre pays, c'est un message au monde, parce que tout le monde voyait la France cafardeuse, désespérée, d'une certaine manière ayant renoncé à l'esprit qui était le sien, et en choisissant le plus jeune président de la Ve République, le plus jeune président depuis que la République existe, vous l'avez rappelé, et le plus jeune chef d'État de tous les grands pays de la planète. La France envoie au monde et à ceux qui la forment, à ses citoyens, un message incroyable d'espoir. Alors bien sûr, on sait que ça ne va pas être facile, que cet espoir, il faut désormais l'incarner, le porter, le réaliser concrètement. Mais c'est un message formidable et ceux qui auraient parié sur ce résultat auraient probablement fait fortune.
François Bayrou, donc, soutien d'Emmanuel Macron. Énormément de réactions. Florence Paracuellos, dans quelques instants, nous donnera les dernières informations. Question de Frédéric Mettezo à Sylvie Goulard.
Oui, Sylvie Goulard, donc, soutien d'Emmanuel Macron. Je voudrais juste vous soumettre deux réactions. Celle de François Baroin, qui dit que les Républicains seront dans l'opposition, et celle de Manuel Valls et Ségolène Royal, qui veulent travailler avec le nouveau président. Alors, on a un président de gauche?
Je crois que réduire la victoire d'Emmanuel Macron, qui atteint 65% des voix, à un jeu droite-gauche, c'est retomber, vous savez, au jeu de loi, on retombe à la case départ. Donc je crois qu'il vaudrait plutôt mieux regarder devant, attendre un peu que les émotions retombent. Vous avez cité 3 personnes, il y en a d'autres aussi dans toutes ces familles politiques. Donc pour ma part, je ne me déterminerai pas sur les déclarations des uns ou des autres dès ce soir.
Oui, mais Arnaud Le Parmentier, Sylvie Goulard, dans la manière dont Emmanuel Macron va vouloir faire ses réformes, j'allais dire, il y a plutôt 2 manières, celle de les faire de manière un peu plus musclée, parce qu'il y a un programme très ambitieux sur la formation professionnelle, sur le chômage, il y a beaucoup de choses. De manière un peu plus musclée, donc plutôt centre-droite, ou de manière plus dans la continuité de François Hollande, centre-gauche. Selon la manière dont vous allez piloter vos alliances, vos ralliements, est-ce qu'on peut avoir un indice de vers où vous voulez aller ?
Arnaud Le Parmentier, vous savez, ça fait des mois qu'on a entendu des gens nous expliquer que ce qu'on avait envie de faire, on ne pourrait pas le faire. Donc, encore une fois, sans aucun triomphalisme, sans dire qu'on a trouvé la martingale absolue, je crois qu'il faut laisser à Emmanuel Macron le temps de développer ses idées et à une nouvelle majorité qui le soutiendra de se mettre en place. Je n'ai aucun doute quand je vais sur le terrain, encore une fois, et parmi les auditeurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans toute la France, qui ne sont pas dans les cercles parisiens des états-majors des partis. C'est à cela que j'ai envie de m'adresser. S'ils ont envie que la France bouge, eh bien, nous y arriverons tous ensemble.
Premier ministre, on l'aura quand ?
Je crois qu'il va y avoir une passation de pouvoir d'abord entre les présidents le président sortant et le président nouvellement élu. Et le gouvernement
dimanche
sera
prochain.
Annoncé. Il y a des dates qui circulent. Je crois qu'il faut que l'Élysée le confirme. Mmh. Respect des
samedi
institutions. Voilà, c'est d'ici quelques jours. Et en temps voulu, une fois que le président de la République sera installé, comme le veut la Constitution, il indiquera son intention pour le gouvernement.
Donc 5 jours d'incertitude. On n'aura pas le Premier ministre avant l'entrée à l'Élysée.
Mais vous savez,
vous venez d'avoir un an d'incertitude et vous ne pouvez pas attendre 5 jours.
Bah non, on avait tout prévu.
Aux États-Unis, le président élu a plusieurs mois pour se préparer et se reposer. Je pense que les Français peuvent attendre quelques jours.
Allez, on retourne au carrousel du Louvre. Cyril Graziani, comment ça se passe là-bas?
Alors c'est la fête, mais surtout là on vient d'apprendre que François Hollande avait pu parler à Emmanuel Macron au téléphone. Il l'a appelé pour le féliciter chaleureusement pour son élection à la présidence de la République. Il va lui succéder dans une semaine. Le président de la République vient donc de faire un communiqué. Sa large victoire, explique François Hollande, confirme qu'une très grande majorité des Français ont voulu se rassembler autour des valeurs de la République et marquer leur attachement à l'Europe, comme à l'ouverture de la France dans le monde. François Hollande poursuit en expliquant lui avoir exprimé tous ses vœux de réussite pour la France, car l'enjeu majeur, dit l'actuel, toujours président de la République, c'est de rassembler, de construire pour poursuivre le chemin de la France vers le progrès et la justice sociale.
Cyril Graziani, quelle ambiance chez vous? Je vois les images de télé, là je les ai sous les yeux, ça m'a l'air plutôt calme, sage. J'ai pas dit ennuyeux, vraiment mesuré. Hein.
Ça a l'air mesuré. Là, au moment où je vous parle, il y a un chanteur sur la scène, donc il va peut-être essayer de
mettre le feu,
mettre un petit peu l'ambiance, voilà.
Merci Cyril Graziani, on vous retrouve évidemment dans quelques instants, dans 4 minutes, Florence Paracuelos nous fera un point avec les nombreuses réactions en France, mais aussi à l'étranger à cette élection donc d'Emmanuel Macron. Je me tourne vers vous, Amandine Lama, est-ce qu'on a une nouvelle estimation ou pas?
Nous n'avons pas de nouvelle estimation, nous restons sur les chiffres annoncés. Nous avons par contre des indications sur les reports de voix entre le premier et le second tour.
C'est intéressant et important.
Oui, c'est tout à fait intéressant. Sur l'électorat de François Fillon, près d'un électeur du premier tour de François Fillon sur deux s'est reporté sur Emmanuel Macron, 48%, 20% pour Marine Le Pen tout de même. Et sur le restant, 15% sur les blancs et nuls, 17% sur l'abstention. Donc une part importante de l'électorat de François Fillon qui s'est abstenu ou qui a voté blanc ou nul. Une part encore plus importante au sein de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, 17% de blanc ou nul, 24% d'abstention. Et pour ceux qui se sont exprimés, 52% en faveur d'Emmanuel Macron, 7% pour Marine Le Pen. Pour les électeurs de Benoît Hamon, les choses étaient plus claires dans nos enquêtes d'opinion précédentes et les choses sont confirmées ce soir. On a 71% de l'électorat de Benoît Hamon au premier tour qui se reporte sur Emmanuel Macron, seulement 2% pour Marine Le Pen et tout de même 10% de blanc et nul, 17% d'abstention. Les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan eux-mêmes n'ont pas suivi les consignes forcément qui ont été données par Nicolas Dupont-Aignan, puisque 27% d'entre eux se sont reportés sur Emmanuel Macron, soit presque autant que les 30% qui se sont reportés sur Marine Le Pen.
On va évidemment soumettre l'ensemble de ces chiffres à nos deux invités, Jean-Yves Camus qui est avec nous et Jean-Yves...
Dormagin.
Dormagin, excusez-moi, hein, j'ai plein de choses qui me passent par les oreilles là. En ce moment, Aurélien Colli justement est avec nous au Bois de Vincennes, au QG de Marine Le Pen. Comment le discours a été reçu, Aurélien?
Merci Marine. Voilà comment les militants ont conclu la prise de parole de Marine Le Pen en chantant il y a quelques minutes. Alors des militants déçus, c'est clair, mais pas tant par la défaite qu'ils attendaient que par le score pour l'instant qui est assez bas. En interne, on attendait une Marine Le Pen à 40%, éventuellement légèrement en dessous, mais pas en dessous des 35% comme c'est pour l'instant encore le cas, d'exception donc, même si Marine Le Pen quand même, il faut le dire, améliore largement son score du premier tour en nombre de voix avec entre 10 et 11 millions de voix. C'est pour ça aussi qu'elle se projette déjà dans l'après-présidentielle et législative, le temps de la recomposition comme elle a dit il y a un quart d'heure à peu près après la décomposition des vieux partis au premier tour, recomposition à droite avec le FN et Debout la France comme seule véritable force d'opposition crédible, c'est ce qu'elle a encore dit après le ralliement de la droite classique à Emmanuel Macron. Et puis elle l'a dit, son parti doit aussi se renouveler pour être à la hauteur de l'opportunité des législatives. Elle propose une transformation de son mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nouveau parti, une nouvelle formation politique? J'ai demandé à quelques militants, pas de réponse, ils ne savent pas eux-mêmes, l'heure pour l'instant est à la fête. tête. Et dès demain matin, en principe, réunion au QG de campagne pour régler les dernières investitures et lancer les législatives.
Aurélien Colli, donc au bois de Vincennes, au QG de Marine Le Pen. Un mot, Frédéric Mettezo, avant toute l'info avec Florence Paracuelos.
Oui, un mot sur les reports de voix entre les deux tours que vient de nous indiquer Amandine Lama d'Ipsos. Moins d'un électeur sur deux chez François Fillon, moins d'un électeur sur deux de la droite républicaine au premier tour a joué le Front républicain ce dimanche. Seuls 48% des électeurs ont voté pour Emmanuel Macron, 20% ont voté pour Marine Le Pen et puis 32% blanc, nul ou abstention. À l'inverse, le Front républicain a tout de même fonctionné dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, puisque 52% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron. On est très loin là du résultat, vous vous souvenez, des insoumis qui avaient été consultés sur Internet, qui eux demandaient plutôt à 66% qu'on vote blanc ou qu'on s'abstienne. J'ajoute que l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan est un échec, puisque les électeurs de Dupont-Aignan, c'est comme en pâtisserie, ils se répartissent en quatre quarts. 27% ont voté Macron, 30% ont voté Le Pen, 20% blanc ou nul et 23% se sont abstenus. Donc cette alliance qu'on nous dit patriote et républicaine n'a pas fonctionné. D'ailleurs, est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet ? Mais il y a quelques minutes à la télévision, Nicolas Dupont-Aignan a dit que son parti ne ferait pas partie de la nouvelle force politique que veut créer Marine Le Pen.
Voilà. On poursuit l'analyse de ces résultats juste après les dernières infos. Florence Paracuelos, bonsoir.
Bonsoir, c'est donc ce soir la victoire d'Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République avec 65,5% des voix selon notre partenaire Ipsos Soprasteria contre 34,5% pour Marine Le Pen. L'abstention est relativement forte, très forte, même 25,3%. Et les bulletins blancs et nuls sont de l'ordre du jamais vu en nombre, 8,8% des suffrages. 4,2 millions de bulletins blancs et nuls. Emmanuel Macron a réservé sa toute première déclaration à l'AFP. Il parle d'une nouvelle page de notre longue histoire qui s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. François Hollande lui a félicité chaleureusement Emmanuel Macron pour son élection. Les Français ont voulu se rassembler autour des valeurs de la République et marquer leur attachement à l'Union européenne, dit le président de la République encore pour quelques jours. François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron, salue un résultat magnifique et incroyablement significatif, un message d'espoir envoyé au monde. Alors il y a ceux qui pensent déjà à l'avenir. Ce soir, Bernard Cazeneuve, la gauche de gouvernement doit apporter sa contribution. Manuel Valls qui appelle à bâtir une majorité présidentielle large et cohérente à l'Assemblée autour d'Emmanuel Macron. Une victoire ce soir. Salut à l'étranger, la chancellerie à Berlin se réjouit, la France reste au cœur de l'Europe. Une victoire pour l'Europe forte et unie, dit-on à Berlin. Theresa May, la première ministre britannique, félicite chaleureusement Emmanuel Macron, tout comme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Les Français ont choisi un avenir européen, se félicite-t-il. Marine Le Pen s'est exprimée quelques minutes après les résultats, quelques minutes après 20h. Elle dit qu'elle a appelé Emmanuel Macron pour le féliciter, lui souhaiter de réussir. Elle a remercié ses 11 millions d'électeurs tout de même et Nicolas Dupont-Aignan, son allié pour ce second tour. Marine Le Pen, on le retient, appelle surtout à transformer le Front National qui doit devenir une nouvelle force politique en vue de la bataille pour les législatives. Et Nicolas Dupont-Aignan ne suit pas ce soir puisqu'il affirme que son parti Debout la France restera indépendant du mouvement que veut créer Marine Le Pen.
Stéphane Le Foll vient de nous rejoindre dans ce studio, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve avec Arnaud Leparmentier et Frédéric Mettezo juste après un détour par Marseille. Bonsoir Olivier Martoc.
Bonsoir.
Vous vous trouvez, Olivier, au siège de la Fédération FN de Marseille.
Oui, absolument. Un siège où il y a pour l'instant très peu de militants puisqu'ils sont encore dans les bureaux de vote. Ils étaient à peu près une dizaine quand ils ont appris en direct, évidemment, la défaite de Marine Le Pen. Alors, un ou deux sifflés, mais pas beaucoup plus. Et ensuite, une grande incertitude parce que on n'a pas très bien compris ici, les militants n'ont pas très bien compris ici si le nom Front National allait disparaître dans le discours de Marine Le Pen ou si c'était une alliance qui allait être créée. Alors, ça flotte, c'est-à-dire que vous avez maintenant quelques responsables qui viennent d'arriver. Ils sont absolument incapables d'expliquer aux journalistes et incapables d'expliquer évidemment aux militants qui sont là ce qu'a voulu dire Marine Le Pen. Est-ce que le nom Front National allait changer ? Et donc, ben, nous êtes, je suis dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de journalistes, très peu de militants, très peu d'élus, et où tout le monde s'interroge.
Merci Olivier Martoc. N'hésitez pas à réintervenir sur l'antenne de France Inter quand vous le souhaitez. Frédéric Mettezo, Arnaud Le Parmentier. Question à Stéphane Le Foll. Frédéric.
Stéphane Le Foll, est-ce que le Parti Socialiste doit lui aussi se lancer dans une grande transformation ce soir, peut-être changer de nom, ou est-ce qu'il doit, comme le dit Manuel Valls, rester un parti qui va composer la future majorité d'Emmanuel Macron?
Stéphane Le Foll.
Bon, d'abord, le Parti Socialiste a une histoire. Elle ne va pas disparaître en une, avec une élection. Je crois qu'il faut quand même rester aussi sur cette analyse, que le Parti Socialiste ait à réfléchir sur son avenir et qu'il y ait des changements à opérer, qu'il y ait des éléments à réinventer, je l'ai dit et je le pense. Mais ça se fera après les élections législatives. On est ce soir avec une victoire claire et nette d'Emmanuel Macron. Il y a devant nous des échéances législatives. On a à construire un pays et à poursuivre sa transformation et son redressement. Et il faut, dans ce moment, être tous responsables.
On a quand même senti, Stéphane Le Foll, un glissement progressif depuis le premier tour. Au début, vous étiez au Parti Socialiste sur une logique, pour faire simple, de Front Républicain, de vote contre Marine Le Pen. Puis il y a eu ce meeting, par exemple, à Dijon, où vous y étiez avec Bernard Cazeneuve ou François Rebsamen, où là, on était plus presque dans une envie de travailler avec Emmanuel Macron.
Mais dès le soir... Je suis venu ici, donc je m'en souviens quand même. Moi, j'ai pas cherché à faire.
C'était un bon moment.
C'était un bon moment de radio. D'ailleurs, on va recommencer.
C'est un moment. Je vais pas reprendre ce que j'ai dit. Moi, ce soir-là, j'avais été très clair. Et je n'étais pas du tout partisan d'être dans le barrage. J'ai dit qu'il fallait voter Emmanuel Macron.
Et vous êtes content, là, ce soir?
Parce que je pense que pour la France.
On peut
voter. Pour les Français, au vu de ce que tout le monde a vu lors du débat, le fait que Emmanuel Macron gagne avec un score qui est clair, c'est quand même un message, et on le voit d'ailleurs à l'échelle européenne et mondiale, qui est un message d'espoir d'une France qui reste républicaine, qui reste dans le projet européen un pays central de ce projet et qui reste ouverte au monde. C'est quand même un point très important. Je ne vais pas faire comme si c'était pas une satisfaction.
Mais vous, Stéphane
Le
Foll,
une satisfaction.
Vous serez candidat aux élections législatives
oui.
dans la Sarthe,
oui.
investi par le Parti Socialiste.
Oui.
Vous êtes candidat pour faire quoi? Pour participer à une majorité présidentielle ou pour être dans l'opposition?
Moi, je suis candidat d'abord pour être capable aussi de proposer un certain nombre de choses, de défendre aussi un certain nombre de choses qui ont été faites. Je pense à des sujets très importants qui ont été mis sur ce quinquennat, durant ce quinquennat. Et puis, je l'ai dit et je vais le répéter de manière très claire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est élu président de la République. Il a présenté un projet sur lequel il y a des points sur lesquels on doit s'engager à travailler avec le nouveau président
de la République. Lesquels, par exemple? Quels sont
les
points importants?
Je vais vous les donner. Je pense que la suppression pour 80% de la taxe d'habitation, je veux dire, c'est un vrai sujet, parce que je regarde bien ce qu'est le problème du périurbain, périrural. Sur ces questions-là, il y a un vrai sujet. Je pense sur la question de l'éducation. Je pense à l'augmentation de 50% de
l'éducation, il revient sur plein de modifications de la loi Vallaud-Belkacem.
C'est là que la vigilance sera nécessaire. C'est là que les socialistes seront utiles. Est-ce qu'on revient et on recommence sur la question des rythmes scolaires? Je pense qu'aujourd'hui, et je vous le dis
franchement... Rythme scolaire, latin et grec, classe bilingue, tout ça, il veut changer.
Oui, mais sur les rythmes scolaires d'abord. Plutôt, c'est ça qui... Parce que ça a été une réforme difficile. On est passé très facilement de 4 jours et demi à 4 jours, concentrant l'apprentissage pour les élèves sur 4 jours, ça a été beaucoup plus difficile de repasser de 4 jours à 4 jours et demi. Je pense que c'est un point très important.
Arnaud, voilà.
Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, finalement, je me réjouis, François Hollande se réjouit, c'est l'un des vôtres qui reste à l'Élysée, il était membre du gouvernement, c'est votre ligne en amplifiant. Finalement, est-ce que c'est pas la victoire de François Hollande ce soir?
Stéphane Le Foll.
Non, je dirais pas ça, François Hollande n'est pas candidat. Donc,
est-ce que c'est le victoire?
Emmanuel Macron a été ministre, j'en suis parfaitement... comptable, j'ai été porte-parole, je me souviens de son arrivée au gouvernement. J'ai connu Emmanuel Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je l'avais connu un peu avant, d'ailleurs, dans le cadre de la campagne présidentielle. Bon, très bien, mais c'est Emmanuel Macron qui a été élu ce soir.
Oui, mais est-ce que le macronisme et la poursuite du hollandisme par d'autres moyens?
Emmanuel Macron a été élu. Mais je regarde son programme. C'est vrai que je retrouve des choses. Je prenais la prime d'activité. Ce qui d'ailleurs a été un élément
pour moi. Est-ce qu'il y a une filiation intellectuelle et politique? C'est ça la question qu'on pose.
Moi, je ne fais pas là-dessus de filiation. Je sais qu'il y a des propositions qui sont faites et qui vont dans le sens d'une amplification ou d'un approfondissement de ce qui a été fait. Je prends l'exemple de la prime d'activité. C'est très clair. Ou sur la question des zones d'éducation prioritaire, là, oui. avec l'abaissement du nombre d'élèves oui. dans ces zones-là, c'est des débats qu'on a eus.
Ils proposent 12 à 15 élèves en CP voilà. et CE1.
Voilà, c'est très bien. Et je pense que ça, c'est des bonnes mesures.
Frédéric ?
Oui, Stéphane Le Foll, une population que vous connaissez bien, les agriculteurs. Vous avez été ministre de l'Agriculture pendant tout le quinquennat. C'est ouais. d'ailleurs un record de longévité sous la Ve République.
Les agriculteurs. Sur la quatrième.
Voilà.
Et la troisième d'ailleurs.
Voilà, vous cumulez ouais. trois républiques. Ouais. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux, ont été de plus en plus nombreux à voter pour le Front National. Mmh. Au total, près de 10 millions de Français ont voté pour le Front National, pour l'extrême droite. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là et qu'est-ce que c'est, que représente cette colère? Quel est le message que ces 10 millions de votants ont voulu transmettre? Et vous étiez en première ligne pour l'entendre, cette colère.
Cette colère sur les agriculteurs, vous savez combien de crises on a traversé? Enfin, ils ont traversé, et j'ai traversé avec eux.
Autant que de réformes de la PAC?
Non, il y en a eu une en début d'année. Là, on a fait 8 crises de marché, crise sanitaire, encore avec l'influenza aviaire, et des crises climatiques. L'an dernier, avec les inondations au printemps, c'était une catastrophe. Moins 25% de production de céréales en France.
Mais au-delà des agriculteurs, donc, 10 millions de personnes qui votent
oui,
Front National.
Oui, mais vous me posiez la question oui, oui. sur les agriculteurs, donc j'essaye de vous expliquer que dans ce contexte, avec les crises et ce qu'ils ont subi, je peux comprendre que certains aient tendance à penser qu'il faille tout changer. Sauf qu'en quittant l'Europe, en quittant l'euro, ce qu'ils pensent gagner, ils ne le trouveront pas. Nous exportons à peu près 60% de ce que nous produisions en France au niveau européen. Je l'ai dit à peine en plaisantant, 26 milliards de litres de lait, 8 milliards d'exportés. Si on n'exporte plus, il faut dire qu'il faudrait consommer plus de 8 milliards de litres de lait en plus. Donc je conseille à tout le monde, en particulier ceux qui prennent du thé avec un nuage de lait, de prendre un gros cumulus maintenant. Hein, parce que c'est ça qui se passerait. De la même manière que de quitter l'Europe, c'est une politique agricole commune avec des aides qui disparaissent. Bon, très bien. Sur le reste, bien sûr qu'il y a des territoires qui se sentent détachés. Décroché. Et je pense en particulier, et je connais bien, hein, toute cette ce périurbain, périrural, sur lequel, c'est vrai, même si on fait des investissements, il y a un vrai problème d'adhésion à la nation et à la société, d'être socialisé. Et ça, j'en ai parfaitement conscience. Comment on fait? Je disais tout à l'heure qu'une question sur la taxe d'habitation me paraît un point important. Et deuxièmement, je pense que dans les intercommunalités, demain, il va falloir revoir ce que sont les services qu'on doit rendre à ces gens-là. En particulier sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'énergie et sur le domaine du transport.
Alors, Arnaud Parmentier, un mot, et puis Stéphane Le Foll doit nous quitter.
Sur la politique, est-ce que vous accepteriez d'être ministre?
Vous êtes bien là?
Est-ce que vous accepteriez d'être ministre?
Jusqu'ici, c'était bien.
Accepteriez d'être ministre d'Emmanuel Macron dans ce gouvernement?
Non, j'ai dit que moi, j'avais fait 5 ans, et je pense qu'il est aussi pour moi...
C'est par fatigue?
Non, c'est par fatigue, c'est aussi par recul, et puis j'ai bien compris ce qu'a dit Emmanuel Macron, il a envie de renouveler.
Alors, est-ce que la gauche...
Alors, je ne suis pas non plus complètement... Alors, j'ai pas les cheveux blancs, je ne suis pas complètement non plus trop vieux.
C'est un peu haut, mais non, ça va.
Je
ça
pense que, voilà, il l'a dit, il veut renouveler... Donc,
est-ce que le Parti Socialiste a intérêt à voler au secours le plus vite possible, quitte à s'inscrire directement dans la majorité présidentielle pour
au
éviter...
Au secours de la victoire,
au secours de la victoire, oui. Mmh. Pour éviter d'avoir un gouvernement plutôt centre-droit et donc plutôt centre-gauche. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je pense que la majorité présidentielle, l'enjeu de la majorité, c'est sa diversité. J'ai bien entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne. Les dépassements d'un certain nombre de clivages et de postures. Et j'en ai parfaitement mesuré là aussi les conséquences quand j'étais sur des débats à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un vrai sujet. En même temps, la diversité, elle va être l'enjeu. Parce qu'il reste l'extrême droite. Combien de circonscriptions ont vu Marine Le Pen arriver en tête aujourd'hui? J'en sais rien, mais il doit y en avoir quand même un certain nombre. Deuxième point, la droite, qui, elle, va s'organiser et va partir à la bataille législative aussi. Et puis après, il n'y a ni la droite, ni l'extrême droite. C'est En Marche, c'est en partie des candidats du Parti Socialiste.
Vous travailleriez, vous, avec des jupéistes?
Mais moi, je ne travaillerai d'abord qu'avec les socialistes pour faire en sorte que les socialistes arrivent à comprendre que dans l'enjeu qu'il y a posé ce soir, avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y a la France et les Français.
Alors, c'est
et on ne peut pas se dérober. Et il faut être responsable. On l'a été pendant 5 ans, on doit continuer à l'être.
Ces socialistes dont vous parlez, Stéphane Le Foll, ils sont singulièrement divisés, puisqu'on a d'un côté Jean-Christophe Cambadélis qui organise la soirée du parti rue de Solferino, et de l'autre, votre ancien candidat Benoît Hamon, qui est tout ailleurs à Paris. Ça ne donne pas une image d'unité pour un parti qui est déjà sacrément secoué, non ?
Moi, je pense que...
C'est une image réaliste en même temps, hein.
Oui,
et puis au moins c'est clair.
La question, je veux dire, pendant 5 ans, ce parti socialiste a vécu avec cette division.
Puisque, oui. Bon, vous y êtes habitué d'une certaine façon.
Oui, pas habitué, subi. Et on en est aujourd'hui avec un moment où il faut qu'on arrive à dépasser tout ça. Mais je le sais. Mais maintenant, il va y avoir une question qui est posée. Tous les électeurs de gauche qui ont été et qui se sont mobilisés pour voter Emmanuel Macron regarderont les socialistes avec quelle question. On bascule dans l'opposition. Je suis sûr que Mélenchon, ce soir, va être le premier à vouloir dire qu'il sera dans l'opposition de gauche.
On va deux,
et on refait ce qui a été le problème, à mon avis, hein, de la campagne, c'est-à-dire on n'est pas nous-mêmes si on est comme ça. On est une gauche de gouvernement. On a gouverné pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on a gouverné. On a assumé les responsabilités. Donc l'enjeu de demain, c'est de faire comprendre aux socialistes que si on doit garder notre identité, on doit la mettre au service de la France et des Français et d'un président de la République.
La victoire de Macron, selon vous, légitime votre ligne réformiste contre les frondeurs?
La victoire de Macron, c'est la victoire d'Emmanuel Macron. Elle légitime en tout cas le fait que, alors qu'on nous avait promis une opposition, que oui, tout le monde disait que ça serait la fin, eh bien, il y a une ligne qui s'est imposée à un président qui a été élu, enfin qui s'est imposé, qui a été élu, sur laquelle on doit pouvoir, avec laquelle on doit pouvoir travailler, même si l'identité des socialistes reste aussi nécessaire, l'identité, parce que il y a des grandes questions liées au modèle social, liées à la pénibilité des retraites, qui sont posées. Vous l'avez aussi évoqué sur un certain nombre de choses, sur le rythme scolaire. Mmh. On a fait des choses, et il faut qu'on soit capable de les défendre.
Une dernière question, Stéphane Le Foll, vous avez la date de la passation de pouvoir ou pas?
Mais je ne sais pas, on me dit que dimanche, puisque le Conseil constitutionnel va déclarer les résultats, dimanche, une fois que les résultats sont déclarés, il y aurait possiblement, je ne sais pas, une passation de pouvoir. Alors est-ce que c'est dimanche, est-ce que c'est lundi, je ne sais pas.
Merci Stéphane Le Foll d'être passé au micro d'Inter, il est 20h46.
Soirée spéciale, élection présidentielle second tour sur France Inter.
Direction Villers-Cotterêts, bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Une terre frontiste, Yann, où Emmanuel Macron est pourtant arrivé en tête.
Oui, le dépouillement des bulletins de vote est maintenant terminé ici à Villers-Cotterêts, cette ville de presque 11 000 habitants gérée depuis 2014 par le Front National. Et le résultat est très serré. Emmanuel Macron l'emporte certes, mais d'une courte tête, avec tout juste 50% des voix. Marine Le Pen recueille, elle, 49,8% des suffrages, sachant que la candidate du FN était arrivée largement en tête au premier tour, avec plus de 35% des voix. Alors les soutiens locaux d'Emmanuel Macron et ceux de Marine Le Pen se sont rassemblés ce soir dans une salle polyvalente du centre-ville. La joie des partisans d'Emmanuel Macron contraste évidemment avec la résignation des électeurs et des élus frontistes de Villers-Cotterêts, à commencer par le maire Franck Briffaut. Malgré le score très élevé de Marine Le Pen, eh bien ce résultat plutôt positif pour le Front National ici n'efface pas évidemment la défaite de la candidate frontiste au niveau national. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs dans le département, dans l'Aisne, mais Marine Le Pen réalise déjà de très beaux scores dans les villes alentours, près parfois de 50% des voix dans certains villages, où elle arriverait même en tête devant Emmanuel Macron, ce qui confirme l'ancrage du Front National dans ce département de l'Aisne. Et maintenant, le maire de Villers-Cotterêts nous disait, malgré cette défaite, c'est une recomposition du paysage politique, notamment du paysage politique local, et les élus frontistes sont déjà tournés vers la prochaine étape, les prochaines élections, à savoir les législatives.
Yann Gallic, merci. Un mot maintenant d'une réaction à droite pour le Parti Les Républicains. On l'écoute, François Baroin.
Et vous me permettrez d'abord de lui adresser mes félicitations, les félicitations républicaines, et je lui souhaite naturellement bonne chance dans la réussite de la mission élevée qui est la sienne. Maintenant, il se retrouve à la tête d'une République fracturée comme jamais, où nous avons tous les uns et les autres notre part de responsabilité. Au premier tour, il y a eu 4 blocs, autour de 20%. Au deuxième tour, 55% des Français ne se sont pas sentis concernés directement par le débat qui a été proposé. 4 millions de blancs. Ça veut dire que le débat qui va s'engager sera le débat de la levée de l'ambiguïté. Je suis évidemment dans l'opposition et j'aurai la charge, à la demande de ma famille politique, de mener avec l'UDI la campagne des législatives. C'est une opposition intellectuelle, de respect, je suis un profond républicain, mais pour les législatives. Compte tenu du caractère hors norme de cette présidentielle, nous avons un combat à mener et je viens d'entendre Madame Le Pen. Il est hors de question que le face-à-face se fasse entre une sorte de marée, une nouvelle ouverture un peu généralisée sur la base de l'élan donné par un jeune président et le Front National.
Voilà, François Baroin sur France Inter qui réagissait à la victoire d'Emmanuel Macron. Nous sommes en ligne avec Jean-Claude Juncker. Bonsoir Monsieur le Président.
Bonsoir.
Arnaud Le Parmentier vous pose une première question.
Bonsoir Monsieur Juncker. Est-ce que la victoire d'Emmanuel Macron marque le retour de la France en Europe ?
La France n'était pas vraiment absente, c'est une façon un peu cavalière de décrire le rôle de celui qui fut, mais je crois que la voix de la France sera affirmée avec une conviction renouvelée et avec une complicité plus parfaite.
C'est quoi vos prochains chantiers ? Parce qu'on a beaucoup débattu des travailleurs détachés. Quels sont les trois prochains chantiers que vous voulez faire avancer avec le président Macron ?
La directive sur les travailleurs détachés a toute son importance. D'ailleurs, on ne l'a pas dit pendant la campagne électorale en France, la Commission a fait, vers la fin de l'année passée, de nouvelles propositions pour amender la directive détachement qui ne donnait pas satisfaction et qui était imparfaite. Les prochains chantiers que nous aurons à labourer est évidemment tout ce qui a trait au Brexit. Il faudra que sur ce point, nous nous entretenions plus en avant avec le nouveau président français qui connaît le sujet mais qui doit communiquer ses pensées et ses suggestions.
Est-ce que ça marque
ses partenaires? Et puis il y aura l'approfondissement de l'union économique et monétaire et puis il y a tout le travail qui gravitera autour de la mise en place d'un socle de droits sociaux minimaux.
J'imagine, Jean-Claude Juncker, question de Nicolas Demorand, j'imagine, Jean-Claude Juncker, que vous êtes extraordinairement soulagé ce soir.
Oui, mais enfin, quand elles sont la France, je dirais un peu sur le bout de mes ongles, je ne suis pas très surpris, puisque je constate que la France est restée fidèle à elle-même. Les Français voulaient rester Français en s'exprimant de la sorte qu'ils sont exprimés. Ils l'ont démontré.
Est-ce que c'est le reflux du populisme qui commence ? On l'a eu un peu en Autriche. Est-ce que vous pensez que le populisme est en train de régresser dans toute l'Europe ?
Non, je n'apporterai pas au résultat de ce soir, ni comme à celui qui fut néerlandais, cette analyse ferme et définitive. Il faut tout de même voir que bien que l'extrême droite ait été bloquée, qu'elle reste très forte, voire Mme Le Pen recueillir 11 millions de votes des Français me donne à penser que la lutte contre l'extrême droite doit être reprise avec une énergie redoublée.
Frédéric Mettezo.
Oui, Monsieur Juncker, le week-end dernier, en déplacement, Emmanuel Macron a répondu en anglais à une question de la BBC. Il disait que si l'Union européenne n'était pas réformée, si elle n'évoluait pas, de facto, la question du Frexit se poserait. En gros, on peut plus continuer comme ça avec l'Union européenne telle qu'elle est.
Oui, mais il faudra que nous ayons, et la Commission, à cet égard, a publié un livre blanc où nous avons montré 5 différentes options et scénarios. Il faudra que l'Union européenne se réforme. Elle doit se réformer chaque jour, comme elle a toujours fait. Et pour cela, il faut avoir une forte présence française.
Et ça, donc, vous êtes maintenant certain de l'avoir ?
Je crois que les conditions sont remplies pour que avec le nouvel élan que le président Macron ne manquera pas d'insouffler à la France, toutes les conditions sont là pour que nous puissions avancer avec plus de célérité.
Une dernière question, Arnaud.
Oui, Monsieur Juncker, avec Monsieur Macron, qu'est-ce que vous allez demander à Madame Merkel, à l'Allemagne ? Qu'est-ce que l'Allemagne peut faire de plus pour l'Europe ?
Vous n'êtes pas Madame Merkel, je préfère lui parler directement.
Voilà qui est dit. Merci Jean-Claude Juncker, vous laissez finir la soirée. Merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter. Il est 20h53, une France fracturée, disait François Baroin tout à l'heure. Sur ce point comme sur d'autres, Jean-Yves Camus.
Je voudrais revenir sur cette question d'abord du populisme et ensuite sur le score de Marine Le Pen. Le terme populisme, nous sommes de plus en plus nombreux à étudier ce que l'on nomme également l'extrême droite et à considérer qu'il a absolument perdu toute espèce de signification. Il a perdu toute espèce de signification parce que ça a englobé au fil des années des phénomènes aussi divers que Marine Le Pen, Silvio Berlusconi, Donald Trump, le Brexit, pourquoi pas Nicolas Sarkozy, j'en passe et des meilleurs. Donc, à un moment donné, nommons les choses par leur nom. Il y a une droite radicale dans ce pays, il y a une droite républicaine. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si jamais, à partir de ce soir, on recommence, comme cela a été le cas après le second tour de la présidentielle de 2002, à sauter sur nos sièges en disant « l'extrême droite a été défaite ». C'est bien, on peut recommencer comme avant. Continuons, on aura 2022. J'entends depuis plusieurs mois que le populisme a été battu, que l'extrême droite a été battue. Ça a commencé aux Pays-Bas. On a dit « Monsieur Wilders n'a pas été Premier ministre ». Bah oui, certes, mais il est passé de 15 sièges à 1 siège, c'est quand même pas mal. Avant, on avait eu l'élection présidentielle autrichienne. Monsieur Van der Bellen a gagné, c'est fantastique. Mais le FPE fait tout de même 46%. C'est pas négligeable. Ce soir, Marine Le Pen est battue, mais elle fait 11 millions de voix. Faut pas l'oublier non plus. On verra aux législatives quelles seront les performances du Front National, mais regardons les résultats de premier tour. Il y a des territoires entiers dans lesquels la droite républicaine est aujourd'hui largement distancée, et même si Madame Le Pen ne réussit pas à empocher une majorité parlementaire lors des élections de juin, le Front National va quand même s'affirmer comme un très sérieux concurrent dans un grand mouvement de recomposition de la droite qui met les Républicains en danger dans leur avenir en tant que formation politique. C'est tout de même pas complètement négligeable. Ensuite, on a beaucoup parlé de l'Europe. Mais là aussi, on a raison d'en parler. Et les Français sont effectivement exprimés aujourd'hui là-dessus. Mais il y a plein d'autres défis qui attendent le futur président de la République, sur lesquels il s'est exprimé, et qui ont déterminé aussi le vote des Français. C'est la question d'abord de la sécurité, c'est la question du fondamentalisme islamique, ce sont des questions qui travaillent la société française, et faire à partir de ce soir, comme si jamais ces questions étaient secondaires, et si comme se posait uniquement la question de la monnaie unique, c'est, à mon avis, un peu léger.
Jean-Yves Dormagin, sur quel point vouliez-vous réagir? Énormément de choses depuis 20 heures.
Oui, sur beaucoup de points. Non, mais on va rester sur le Front National, peut-être quelques instants. Je partage tout à fait les remarques de Jean-Yves Camus. Attention, qu'est-ce que c'est réussir une élection? Qu'est-ce que c'est rater une élection? Réussir une élection, c'est faire un peu mieux que ce qu'on attendait dans les sondages. Et rater une élection, c'est faire un peu moins que ce qui était attendu dans les sondages. Marine Le Pen a fait un peu moins que ce qui était attendu dans les sondages. Personne, je crois, ou presque personne, n'imaginait qu'elle puisse devenir présidente de la République. C'est très important d'ailleurs à prendre en compte dans la rationalité des électeurs tout au long de cette séquence. C'est-à-dire que ce soit les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de François Fillon, d'autres électeurs, Nicolas Dupont-Aignan, tout le monde savait, ou était à peu près certain, en s'abstenant, en votant blanc, en votant pour Emmanuel Macron, voire pour Marine Le Pen, que Marine Le Pen ne deviendrait pas présidente de la République. J'ai fait des entretiens tout au long de l'entre-deux-tours, personne ne la voyait réellement devenir présidente de la République. En revanche, il y avait une incertitude sur son score. Enfin, c'était une des incertitudes du scrutin, il y avait une incertitude sur son score. Et pendant un moment, on a imaginé, au regard des sondages, au regard du début de l'entre-deux-tours, que Marine Le Pen franchirait la barre des 40%. Elle a d'ailleurs été donnée à plus de 40% dans un certain nombre d'études au cours de cet entre-deux-tours. Donc évidemment, son score aujourd'hui de 35, peut-être 34%, au regard de cette attente, est perçu comme un échec. Et de ce point de vue-là, le débat d'entre-deux-tours, certainement pour une fois, je dis pour une fois parce qu'on sait que ces débats ont très peu d'impact en général, pour une fois, ce débat a eu un impact. On l'a vu dans les études, on l'a vu beaucoup dans les entretiens. Moi, j'ai rencontré des électeurs de Marine Le Pen qui ont changé d'avis au lendemain du débat, qui étaient embarrassés. Il y a des électeurs de Marine Le Pen qui ne reconnaissaient pas avoir vu le débat, qui prétendait ne pas l'avoir vu alors que beaucoup de choses semblaient indiquer le contraire. Pourquoi? Parce que ce débat a réellement été, du point de vue de son image, assez catastrophique. Mais attention, c'est-à-dire le fait que Marine Le Pen n'ait pas fait 40% ou plus de 40% et fait un score décevant au regard des attentes, de ses propres attentes, des attentes de ses adversaires, etc., ne signifie pas que son score est faible. Enfin, rappelons-le, 11 millions de voix, le double à peu près de son père il y a 15 ans. N'importe quelle entreprise qui aurait ce taux de croissance verrait les investisseurs affluer. C'est-à-dire que, donc, je pense qu'il faut avoir des analyses un peu plus mesurées sur le... Voilà, aujourd'hui, on sait que le Front National pèse autour de 35-40% au mieux lors des confrontations de second tour. C'est déjà énorme. Il lui manque 10 points pour arriver au pouvoir.
Frédéric, attention. 2 minutes avant 21h.
Et selon une estimation de l'AFP qui a recroisé les projections de plusieurs instituts de sondage, dont Ipsos, notre partenaire, plus de 4 200 000 électeurs qui se sont déplacés, plus de 4 millions, ont voté blanc ou nul aujourd'hui. 26% des inscrits. Là encore, on est sur un record historique. Ça montre qu'il y a une véritable crise démocratique, selon vous,
Jean-Yves Dormagin.
Ça montre que ce second tour d'élection présidentielle, vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, parce que c'est bientôt le premier tour des législatives, et c'est à ça que je pensais en le disant. Ça montre que ce second tour d'élection présidentielle est porteur, on aura l'occasion, j'imagine, d'en parler par la suite durant la soirée, est porteur de beaucoup d'incertitudes. Étrangement, beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a un candidat qui fait effectivement peut-être 65-66% des voix.
65,8, dernière estimation.
Et en même temps, on peut lister la somme des questions qui se posent ce soir, hein, au terme de ce second tour, et qui sont porteuses d'énormément d'incertitudes, y compris sur la séquence immédiate, hein, y compris sur la séquence des élections législatives. On aura sans doute l'occasion d'en parler, mais on est dans un contexte, on l'a vu, y compris avec les invités qui se sont succédés, on est dans un contexte qui n'a rien à voir finalement avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Rien à voir avec 2012, rien à voir avec 2007, rien à voir avec 2002. Je ne même pas une période beaucoup plus stable sur le plan politique que la fin des années 70-80, mais qui n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on peut lister la somme des incertitudes qui planent sur l'avenir immédiat, y compris d'un point de vue électoral.
Jean-Yves Dormagin, donc, s'exprimait à l'instant au micro de France Inter. Jean-Yves Camus, juste avant lui.